Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Bon, vous connaissez les food trucks, les camions restaurants. Voici maintenant le food trek. C'est un livre paru chez Glénat pour apprendre à la cuisine aux voyageurs à pied ou à vélo.
Oui, ce n'est pas parce qu'on marche ou on pédale que l'on doit manger sur le pouce. Au contraire, c'est là qu'on a besoin d'une bonne alimentation.
Food trek, ce sont des conseils avant de partir pour bien manger et bien s'hydrater. L'auteur développe ses recettes dédiées à la randonnée itinérante en autonomie et elle est avec nous. Bonjour Elena Battisti.
Bonjour.
Vous êtes passionnée de nutrition sportive et vous partez du principe que l'on ne doit pas choisir entre manger pour le plaisir et manger pour avoir des forces pour la rando. On peut donc faire les deux ?
Oui, oui, absolument. Absolument. Et je pense d'ailleurs que c'est d'autant plus un plaisir de manger quelque chose qu'on a préparé soi-même après une journée d'effort.
Mais Elena Battisti, pourquoi vous est venue cette idée ? Vous mangiez mal lors de vos treks quand ce n'était pas vous qui prépariez le repas ?
Alors tout simplement, en fait, moi je ne mange ni viande ni fromage et donc rapidement quand je suis partie en randonnée avec des personnes qui elles avaient une alimentation plus classique, j'ai dû commencer à réfléchir à ce que moi je pouvais emmener et ce que je pouvais partager et faire découvrir au reste du groupe avec qui je voyageais. Du coup j'ai rapidement dû me poser des questions et du coup c'est ce qui a amené toute ma réflexion autour de la nourriture en randonnée.
Alors on ne vous cache pas, Elena, que l'on part de loin, j'ose parler au nom de Frédéric également, on sait juste que c'est bien de manger des sucres lents avant l'effort, comme un plat de pâtes par exemple, mais ça va pas beaucoup plus loin.
Bah écoutez, c'est la base en tout cas de la nourriture en randonnée. On va dire que ce qui est vraiment primordial, c'est d'avoir donc des sucres lents, les fameuses pâtes ou par exemple les flocons d'avoine ou le riz ou le quinoa. Donc tout ce qui apporte de l'énergie qui est diffusée sur le long terme. Et donc c'est vrai que dans les sports d'endurance plutôt lents, type vélo ou marche à pied, c'est très intéressant d'avoir des bons apports en sucre lent. Donc vous êtes déjà tout dans le bon, dans la base.
Elena, du coup, de par l'effort, l'appétit est décuplé, c'en est même parfois surprenant. On ne pensait pas avoir cette faim en faisant une pause.
Bah, alors en fait, on a l'impression de finalement, entre guillemets, pas faire grand-chose quand on ne fait que marcher, encore une fois je mets des guillemets, mais moi j'aime bien utiliser l'expression ventre sur pattes, et pour moi c'est vraiment ça, quand on se retrouve à faire de la randonnée, donc du trek, c'est de la randonnée sur plusieurs jours, on brûle pas mal de calories au final sans s'en rendre compte, et c'est vrai qu'on pense souvent à manger, on se réjouit que les repas et les pauses arrivent surtout pour ça.
Et votre expression c'est quoi ?
Ventre sur pattes. Ce sont des recettes simples, on n'a pas besoin d'être un as des fourneaux.
Exactement, et pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, parce que si ça vous semble déjà compliqué chez vous, en randonnée, imaginons par exemple la météo n'est pas très bonne ou vous avez vraiment très faim, il faut que ce soit quelque chose de simple à préparer. C'est vraiment pour moi très important.
Vous avez un exemple en tête d'un plat bon pour avant ou pendant la rando que vous préparez et que vous mettez dans votre sac à dos ?
Alors moi, je suis particulièrement fan des flocons d'avoine parce qu'on peut les manger sucrés et salés. Donc par exemple, pour le matin, c'est le fameux muesli qu'on peut manger dans un yaourt ou du lait, par exemple. Et il se décline très très bien également en version salée, donc avec des épices type curry, de l'oignon, de l'ail. C'est très très bon et c'est quelque chose qui vous tient vraiment le corps.
Mais vous mangez pas des flocons matin, midi et soir quand même?
Alors ça, c'est également quelque chose de très important pour moi, c'est de bien varier. Donc à la limite, si vous souhaitez emporter un seul type d'aliment, essayez de bien varier sur les épices qui l'accompagnent. Ça vous permet de garder de la gourmandise à chaque repas.
Mais dans votre livre, j'ai repéré plein de choses. Moi, pour Denis, il y a du boulgour pimenté, par exemple. Pour moi, c'est les pâtes à la napolitaine. C'est assez simple et puis c'est vrai que ça donne l'eau à la bouche.
Il y a même de la crème au chocolat.
Exactement. En fait, l'idée, c'est d'essayer de manger comme à la maison. Si on est gourmand à la maison, ceux qu'on préfère à la maison, on les mara d'autant plus à l'extérieur en bivouac.
Sur la couverture de Food Trek, la cuisine pour les voyageurs à pied ou à vélo, il y a deux amis qui sont en train de déjeuner dans un décor absolument magnifique avec des lacs derrière elles. Mais il y a quand même un réchaud, donc il faut emmener un réchaud.
Un peu de matos.
Des couverts, des assiettes, ça fait des sacs à dos plus lourds, évidemment.
Alors c'est vrai qu'il faut un minimum de matériel. Alors donc le réchaud c'est assez intéressant de le prévoir. Bon, il y a plein d'endroits où vous pouvez cuisiner sur le feu assez facilement. Mais c'est bien d'avoir un minimum de matériel justement pour être en autonomie. Donc c'est pour ça que c'est bien de réfléchir à ce qu'on va manger en fonction de l'endroit où on va et de combien de jours on s'apprête à partir. Et alors c'est vrai que du coup, si vous cuisinez au réchaud, c'est aussi intéressant de faire attention aux aliments que vous allez prendre, que ce soit des aliments qui soient vite préparés. Donc par exemple, je vais prendre les lentilles vertes du puits. C'est pas une bonne idée de les emporter parce que ça cuit à peu près 45 minutes, donc il vous faudrait beaucoup de gaz.
Ah ouais,
par exemple, de prendre la cousine, la lentille corail, qui elle se cuit en 10 minutes, par exemple.
Et le mode de conservation, c'est important, un élément important que vous développez aussi beaucoup dans l'ouvrage.
Alors oui, effectivement, le problème du trek, c'est que toutes les affaires qu'on emporte peuvent être soumises à des conditions météo un peu compliquées. Donc c'est très important de bien stocker la nourriture, de la mettre à l'abri de l'humidité surtout, parce que c'est souvent des aliments secs qui sont réhydratés pendant le voyage pour être consommés. Donc il faut absolument les tenir à l'abri de l'humidité, par exemple.
Être rigoureux là-dessus.
On est d'accord, Elena Battisti, on attend quelques jours pour se lancer dans un trek ou une rando, parce qu'il fait un peu chaud en ce moment quand même.
Absolument. Alors il y a pas mal de gens, surtout des adeptes de trek, qui ont décidé justement d'aller se réfugier en altitude.
Bien sûr.
Il faut savoir qu'il fait quand même très chaud et que c'est du coup très important de bien s'hydrater.
Il faut être fort, du coup on se lance pas dans l'aventure n'importe comment, évidemment, à chaque fois qu'on parle de rando ou de trek. Merci beaucoup Elena Battisti.
Je vous en prie, merci à vous.
Et on renvoie sur votre livre Food Trek, on a appris des tas de choses. Frédéric a même noté des recettes, c'est dire. Conseils et recettes pour manger sain et léger, c'est paru chez Glénat.
Et ça donne envie de faire de la randonnée. Merci Elena, bonne journée.
Merci à vous.
À bientôt,
également.
Au revoir.
France Bleu, une heure en France.
Un vent de nostalgie souffle en ce moment dans les rayons de chez Intermarché. L'enseigne fête ses 50 ans et pour cet anniversaire, réédite des produits emblématiques dans leurs emballages des années 70.
Ça va sans doute nous rappeler des souvenirs, en tout cas à beaucoup d'entre nous. Enfin, peut-être plus à moi qu'à vous, vu que c'était il y a 50 ans.
Oui, nous sommes avec celle qui est en charge de la communication chez Intermarché. Bonjour Camille Sissi.
Bonjour.
Quels sont les produits réédités et surtout comment les avez-vous choisis ?
Alors, il y en a pas mal. Alors, on les a choisis parce que c'était des produits iconiques.
D'accord.
Des produits qui évoquent du souvenir tout un chacun. Alors, si je vous dis le verre Goldorak que notre mamie nous achetait le dimanche pour manger avec les frites pour nous faire plaisir, ou le sirop de menthe
Tesser
qui avait le goût de notre premier baiser au collège, ou la crème Nivea qu'on piquait dans le tiroir de notre maman, voilà.
Mais en revanche,
choisi comme ça.
La vache qui rit ou le caprice des dieux, j'ai pas l'impression que ça a beaucoup évolué, ou alors j'en ai pas acheté depuis longtemps.
Alors si quand même elles ont évolué, mais c'est vrai que on a l'impression qu'elles ont pas évolué parce que c'est un produit qui est tellement familier. La vache qui rit, c'est la vache qui rit, quoi. Et on se rend compte que même aujourd'hui, elle a pas pris une ride.
Ouais, il y a 50 ans, elle avait déjà des boucles d'oreilles avec
exactement.
Des boîtes de vache qui rit, quoi. Ouais.
Exactement.
Ce qui est très bien dans votre choix, hein, Camille Sassi, c'est que ces produits sont iconiques. On a tous, comme vous l'avez souligné, des souvenirs. Parce que c'était des moments de notre vie où les produits étaient sur la table de la cuisine, dans les placards. On les a tous vus et on associe ça à des moments, les moments d'enfance, d'adolescence pour les cinquantenaires d'aujourd'hui.
Mais exactement, c'est exactement ça, et c'est pour ça que notre campagne de communication presse, elle est basée là-dessus.
Oui.
En fait, pour chaque produit, on raconte une histoire. Voilà. Donc on raconte une histoire autour du produit et tous les souvenirs qui vont avec. Donc je parlais du premier baiser avec le sirop de menthe Tesser. Je parlais de l'odeur de la crème Nivea qu'on piquait à notre maman quand on n'avait pas encore l'autorisation d'avoir nos propres produits, nos propres crèmes dans notre salle de bain.
Il y a les galettes Saint-Michel aussi avec la baignade de l'été avec les grands-parents, je trouvais ça génial.
Oui, et puis la boîte à couture, qui devient la boîte à couture en fait.
Oui.
Notre mamie, on se rappelle qu'elle utilisait les boîtes en fer des galettes pour mettre tous ses ustensiles de couture, donc oui, c'est assez drôle de se rappeler de tout ça.
Le premier barbecue avec des potes, avec Goldorak sur le verre de moutarde Amora.
Exactement.
On est tous des grands enfants, en fait. L'effet vintage, ça marche à fond.
Alors, en ce moment, on voit que c'est dans l'air du temps. Alors, est-ce que c'est parce que les gens ont besoin de se raccrocher à des souvenirs ou... Enfin, nous, c'est surtout de parler à la génération qui a grandi avec nous, en fait. Nous, on est nés il y a 50 ans. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 50 ans qu'on accompagne nos consommateurs dans leur vie, leurs achats au quotidien. Et c'est aussi ça qu'on voulait exprimer, parce que nos 50 ans, on les fête pas tout seul, on les fête voilà, avec nos clients. Mais donc, c'était un peu de recréer voilà, ce lien et de conserver cette proximité.
Mais pour retrouver la bouteille d'Orangina de l'époque ou le tartare ail et fines herbes de l'époque, il faut décider les fabricants à faire un packaging d'autrefois quand même.
Ouais, ouais, on a discuté avec eux, mais franchement, ils ont tous été hyper emballés par l'idée. Ils nous ont tous suivis, voilà, c'est aussi ça d'être partenaire depuis 50 ans.
Ils ont tous été emballés, c'est bien dit.
Non, mais ils ont tous adoré l'idée, en fait. Voilà, ressortir leur packaging d'antan. Et d'ailleurs, ils l'ont tous fait avec grand plaisir. Et on n'exclut pas de le faire sur d'autres produits, parce qu'on a ouvert un peu une discussion sur les réseaux sociaux avec quels produits vous voudriez retrouver. Ah. Et donc, voilà, les clients nous donnent plein d'idées. Donc, à voir si on va...
Ça marche jusqu'à quand l'opération? Parce qu'il y a un côté collector, on va absolument se le procurer avant qu'il n'y en ait plus.
Mais écoutez, il y a un stock limité, effectivement, il n'y a pas de date spécifique pour l'opération. L'opération, elle a été voilà, communiquée sur une semaine en particulier, mais après, les produits sont en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Donc, c'est vrai que sur les produits frais, bah, ça va commencer à être un peu difficile. Le tartare, caprice de Dieu, ils ne vont pas rester très longtemps dans les rayons. Par contre, sur les produits conserves ou crème, etc., ça va durer plus longtemps. Le verre de Goldorak, j'avoue qu'il a beaucoup de succès.
Ah, il est bien celui-là. Le verre à moutarde de Goldorak, il est magnifique. Camille Sassy, en dehors de ces produits donc réédités, on remarque une nouvelle volonté de communiquer chez Intermarché. On pense évidemment à vos deux spots de publicité qui ont bouleversé beaucoup de téléspectateurs. Il y a un désir de proximité avec le client, de parler de valeurs, de sentiments.
Oui, bah, de toute façon, notre réseau, il a été construit autour de ces valeurs, autour de la proximité avec le client. Voilà, vous trouvez un Intermarché partout en France, voilà, à moins de 15 kilomètres. Donc c'est vraiment notre force. Et ensuite, oui, autour de la nouvelle communication autour du mieux manger.
Oui.
Donc aujourd'hui, évidemment, le prix reste un incontournable. On essaye tous en distribution d'avoir les prix les plus bas, mais aujourd'hui nous on va chercher des valeurs aussi importantes pour nos consommateurs qui peuvent être le mieux manger au quotidien, donc aider à mieux manger et puis aussi aider à avoir une consommation responsable. Voilà.
En fait, Frédéric a adoré le film où le jeune garçon achète plein de légumes pour plaire à la caissière.
Il y en avait un autre, la plus récent aussi, avec
c'était
un
le
couple.
Tout premier, celui-là, ouais. Là, ouais, on l'a appelé L'amour, c'est le tout premier, effectivement, qui a lancé la nouvelle plateforme de communication Intermarché, qui a été un vrai succès.
Et le dernier, et moi, avec Benjamin Biolay qui chante.
Ah oui, il est très, très bien, très émotionnel celui-là.
Ah oui. Ouais, on pleure devant les pubs Intermarché, faut bien le dire.
Frédéric est très accro des pubs.
En tout cas...
Bah, c'est pas des pubs, on les fait pas comme des pubs, c'est vraiment comme des courts-métrages en fait.
Mais c'est vrai. Et donc ça, c'est réussi. Et finalement, les collecteurs également. Allez donc voir chez Intermarché si ça vous rappelle des souvenirs. Les tessers, les vaches qui rissent, les galettes Saint-Michel. Vous verrez tout cela réédité version années 70. Merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui, Camille Sassy.
Merci à vous, merci.
Belle journée, bel été. À bientôt.
Belle journée, au revoir.
Au revoir.
Une heure en France. Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment sont découpés et fabriqués les Pulls? On a découvert une entreprise qui découpe des Pulls en bois, à la main et sans modèle.
L'enseigne Puzzle Michel Wilson a 3 boutiques à Paris ainsi qu'un atelier en Bourgogne. On va découvrir ce métier très particulier.
L'un des découpeurs de Puzzle en bois est avec nous. Bonjour Enzo Bersani.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir, j'ai une première question qui est sur le vocabulaire. Est-ce que vous dites Puzzle ou Pulls?
Puzzle. Enfin, après, c'est tout le monde y ajoute sa petite touche, mais moi, je dis puzzle.
Puzzle.
Et est-ce que vous êtes un puzzleur ou un découpeur de puzzle?
Alors, avant tout, un puzzleur.
Ah, puzzleur, donc on dit bien comme ça. C'est le nom de votre métier.
En tout cas, en le conjuguant, donc, c'est plus pratique.
Alors, comment on devient puzzleur, Enzo?
Eh bien, par passion.
Ouais.
j'ai envie de dire. Moi, effectivement, c'est un virus qui m'a touché quand j'étais tout petit. Et la première fois que j'ai découvert un puzzle en bois, c'était un puzzle en bois Michel Wilson. Mmh. Et j'ai trouvé ça formidable.
Qu'est-ce qui vous plaisait ?
Je suis complètement tombé amoureux.
Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est la logique qu'on passe du temps avant de trouver la bonne pièce ?
Ce qui me plaît, c'est déjà la matière, donc c'est du bois, c'est quand même totalement différent que le carton.
Ouais.
C'est un matériau qui est beaucoup plus agréable au toucher et qui est beaucoup plus solide. Les puzzles sont de très très bonne qualité en comparaison des puzzles en carton. Et surtout, le plus important, c'est la découpe en fait, parce que toutes les pièces que nous découpons en fait ont une forme propre. Elles ont toutes une forme différente en fait. Et du coup, c'est très intéressant de faire un puzzle qui est découpé à la main en comparaison d'un puzzle qui est découpé à l'emporte-pièce comme les puzzles carton.
Mm-hmm.
Parce que du coup, la découpe suit énormément le tracé original du dessin, la séparation des couleurs. Et du coup, c'est beaucoup plus challengeant de terminer un puzzle, mais c'est aussi beaucoup plus beau une fois remonté. Il y a énormément de gens qui viennent chez nous, qui achètent des puzzles et qui les encadrent en fait. Ce sont des œuvres d'art.
Mais vous découpez à la main, sans modèle. Est-ce que vous savez à l'avance combien de pièces vous allez découper quand vous avez votre
plaque de bois.
Pièce de bois ?
On sait qu'on va devoir découper un certain nombre de pièces. On a, par exemple, sur un 250 pièces. On a un certain modèle qui nous donne, on a une certaine dimension de puzzle qui nous donne en fait le calibre théorique de chaque pièce.
Mmh.
Et en fait, c'est autour de 2 cm carrés. Mais en fait, la découpe, c'est complètement à l'œil. Donc il peut y avoir des pièces un petit peu plus petites et des pièces un petit peu plus grosses. Donc c'est vraiment complètement artisanal.
Mais ce qui est super, c'est que chaque puzzle est unique parce que chacun d'entre vous a son style de découpe.
Tout à fait. On est sept à découper. Même si effectivement on a une certaine politique dans l'entreprise pour certaines formes de pièces, c'est-à-dire que vous allez avoir des pièces de nuages qui vont être beaucoup plus arrondies que les pièces qui sont découpées dans des bâtiments qui elles seront beaucoup plus anguleuses. Par
c'est
exemple.
Génial ça. Vous suivez en fait, le dessin en fait.
Exactement. Ça clarifie beaucoup moins l'image une fois remontée. On voit très peu la découpe.
Okay.
Vous parlez de nuages, vous avez découpé quoi par exemple ce matin? Je sais que vous avez des collections des puzzles de chats, de Van Gogh, du printemps, de la mer, de Paris. Vous avez fait quoi ce matin?
Alors ce matin j'ai découpé une nuit étoilée de Van Gogh.
Wow.
en 350 pièces.
Mmh.
Donc c'est une de Van Gogh, c'est vraiment, ça se prête énormément au puzzle. On peut faire des pièces très très belles et complètement différentes. Le dessin se prête énormément au puzzle. Ce genre de peinture se prête énormément au puzzle.
Pourquoi ? Expliquez-nous.
J'ai fait une estampe japonaise de Hokusai.
Et pourquoi Van Gogh se prête bien au puzzle ?
Alors, parce qu'en fait, c'est un peu comme les tableaux impressionnistes,
oui.
Si vous voulez. Vous n'avez pas de tracé franc sur le dessin. En fait, c'est la couleur qui fait la forme. Et du coup, en fait, il y a beaucoup plus de flou, ce qui permet à la découpe d'être beaucoup plus fluide et en fait de moins casser l'image. En fait, c'est-à-dire que si vous coupez à la perpendiculaire de l'image, par exemple, d'un trait qui est dans un sens opposé à votre découpe, mmh. ça va beaucoup moins se voir que par exemple sur un puzzle de Bruegel, par exemple.
D'accord. Enfin,
sur un tableau de Bruegel.
Mais ce qui est génial, c'est qu'on sent qu'il y a une part de créativité et de méthode dans votre travail.
Complètement. C'est complètement créatif. C'est ça qui est très intéressant. C'est que le même puzzle découpé 30 fois, il aura 30 découpes différentes et on peut avoir 35 idées, 40 idées différentes sur le même puzzle et toutes les exécuter. C'est extrêmement intéressant.
Est-ce que vous faites des puzzles le week-end quand vous en avez découpé toute la semaine?
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Mais c'est trop facile pour vous, non? Vous allez hyper vite sur
non,
les puzzles.
Pas du tout. Pas du tout, parce que on retient pas toutes les découpes qu'on fait.
Vous faites moi, vos propres puzzles et vous n'y arrivez pas, c'est ça que vous...
Puzzles, je redécouvre la passion de faire un puzzle.
Enzo, vous nous avez expliqué qu'il vous arrive de faire les puzzles que vous avez vous-même découpés et que vous avez un peu de mal à les faire.
Alors oui, c'est possible. Si la découpe est très compliquée, si j'ai fait une découpe compliquée avec des pièces, par exemple sur un aplat de couleurs, sur un aplat de ciel ou sur un aplat de ciel par exemple avec des pièces qui se ressemblent un petit peu, il va y avoir très peu de variations entre les pièces. Du coup, ça va être beaucoup plus difficile à remonter. Alors que si je fais des pièces avec des formes vraiment identifiables, ça va être plus facile.
Enzo Bersani, qui sont vos clients? Parce qu'on pense forcément aux enfants, on pense aux personnes âgées, mais tous les gens entre deux, il y a peut-être beaucoup de gens qui aiment faire les puzzles, en fait.
Complètement. En fait, tout le monde, ça touche tous les âges. Ceux qui viennent principalement, effectivement, sont les enfants et les personnes âgées. Mmh. Mais en fait, il y a énormément de personnes qui ont la quarantaine, la trentaine, et même la vingtaine, qui découvre ou qui redécouvre le plaisir de faire un puzzle, en fait.
Les Québécois appellent les puzzles des casse-têtes. C'est vrai que c'est un peu casse-tête. Ça énerve d'ailleurs Frédéric, elle a du mal à en finir un.
C'est vrai.
On a quelques clients qui nous félicitent en nous disant « vous êtes méchants
». Mais c'est aussi une activité qu'on ne fait plus en fait avec tous les écrans. Mais aujourd'hui, c'est de se poser, de réfléchir, de prendre ce temps qu'on ne prend plus.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est très, en plus, c'est, ça permet de réfléchir, ça permet de se détendre. C'est vraiment quelque chose qui permet de s'échapper. Et en plus, on fait quelque chose qui est pas du tout inutile. C'est très bon pour la motricité, pour la mémoire. Et en plus, c'est quelque chose qui fait plaisir. On peut le défaire, on peut le refaire plus tard, on peut l'encadrer, on peut le regarder ensuite toute la journée.
Non, si on l'a fait, on le défait pas.
Enzo Bersani est l'un des découpeurs de chez Puzzle Michel Wilson à Paris.
Et à Paris, dans le 15e arrondissement. Merci de nous avoir fait partager votre passion, Enzo. Ça me donne envie de recommencer un puzzle.
Je vous en prie, merci de votre intérêt pour nos puzzles. C'est vraiment très gentil.
Ça nous a beaucoup plu. Merci Enzo, bonne journée, bonne découpe.
À bientôt. Bonne journée.
Au revoir.